Justice, justice, justice. C'est le cri qui résonne dans le monde en ce moment. C'est le cri qui sort de nos cœurs quand on apprend la mort de George Floyd et qu'on découvre la vidéo liée aux événements, à ce qui s'est passé. On veut que la justice soit rendue. On a soif de justice quand on voit l'horreur de la haine humaine qui se manifeste par le racisme. Je suis tombé sur une vidéo il y a quelques jours où des gens battaient un homme juste en raison de sa couleur de peau. C'est dégoûtant, c'est horrible, j'avais presque envie de jeter mon téléphone. Mon cœur criait « justice ». Dans un livre, il y a quelques semaines que je lisais, un missionnaire racontait son parcours dans les villes reculées au Népal, des villages reculés au Népal, où il a été témoin de choses atroces qui l'ont choqué. La plupart des jeunes filles dès 12 ans qui sont vendues pour servir pour du trafic humain, comme esclaves sexuelles, pour que des hommes adultes abusent d'elles. C'est dégoûtant, c'est horrible. Quand on entend ça, notre cœur crie « justice ». Et souvent, ces choses existent, mais elles existent loin de nous. Et c'est quand on est confronté à la réalité de ces choses qu'on découvre qu'il y a en nous un désir profond que le mal soit puni. Il y a un désir profond en nous que la justice soit rendue. Justice pour ceux qui ont été offensés, justice pour ceux qui sont opprimés, justice au milieu d'un monde qui est marqué par les violences policières, par les émeutes, par le trafic d'êtres humains, par les dictatures, le pouvoir abusif. Dans un monde où l'histoire nous parle de génocide, de colonisation, de la manifestation sans limite de la méchanceté de l'homme, au milieu de tout ça, nous avons soif de justice. Et vous savez quoi? Dieu aussi. Dieu aussi a soif de justice. Dieu aussi est profondément indigné devant le mal que j'ai décrit. Dieu aussi veut que les criminels soient punis, et même bien plus que nous. C'est ce qu'on découvre quand on s'intéresse au caractère de qui Dieu est et à ce que ça implique par rapport à qui nous sommes. On continue notre série de prédications, comme Steve l'a dit, dans le livre de Sophonie, et on est au chapitre 3. Et comme les deux derniers dimanches, on va encore entendre parler de jugement. Dans ce passage, on va voir en particulier comment le caractère de Dieu qui est juste contraste avec la corruption des êtres humains, de l'être humain. Et ça nous aidera à mieux comprendre les raisons du jugement. Ça nous aidera à mieux comprendre pourquoi Dieu a soif de justice. Dans le passage qu'on va voir, on est amené à avoir trois réactions et qu'on va voir ensemble. On est amené à être choqué par le péché, réconforté par le caractère de Dieu et préparé pour le jugement qui arrive. Donc d'abord, choqué par le péché dans les versets 1 à 4. Donc comme j'ai dit dans ce passage à nouveau, comme depuis le début de ce livre de Sophonie, il s'agit d'un message de jugement. Ici, le jugement, il est adressé à Jérusalem. La ville n'est pas mentionnée de manière explicite, mais c'est implicite. On voit qu'il est question d'une ville qui a reçu l'instruction au verset 2, qu'il est question d'une ville où il y a des prophètes et des prêtres au verset 3. Il est question d'une ville au sein duquel l'Éternel est au verset 5. Donc il s'agit bien de Jérusalem, de la capitale de Juda, de la ville la plus importante du peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance. Ce n'est pas la première fois que Sophonie condamne Jérusalem, qu'il s'adresse à Jérusalem, il l'a déjà fait au chapitre 1. Mais ensuite, Sophonie s'est mis à parler un peu des nations qui étaient autour, et même des nations lointaines, des ennemis de Juda, comme par exemple Ninive, juste avant, on a vu ça dans la fin du chapitre 2. Et les habitants de Jérusalem, ils auraient pu se dire « Ah bah, c'est bon, on est tranquille. Ninive, ah ouais, eux, faut les condamner, ils sont méchants, vas-y, prêche Sophonie, amen !» Mais ensuite, Sophonie, là, il se tourne vers eux et pointe du doigt Jérusalem en disant « Mais vous aussi, vous êtes concernés par ce jugement. » Et il le fait avec des mots très forts, des adjectifs très forts au verset 1, pour mettre en avant sa corruption. « Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. » C'est comme si la ville était dans un état où il restait rien de bon. C'est un peu comme si vous prenez un plat dans votre frigo, vous l'ouvrez, vous ouvrirez le couvercle et vous découvrez que tout est moisi. C'est pas juste vous pouvez gratter un peu ce qui est moisi et garder le reste, mais rien n'est bon, rien ne peut rester. Et on a plus de détails au verset 2 sur la raison de cette corruption, sur pourquoi Jérusalem est dans cet état. Au verset 2, il est dit « Elle n'écoute aucune voix, elle n'accepte pas la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. » Jérusalem est vraiment l'inverse de ce qu'elle devrait être. Elle devrait écouter la voix de Dieu. Elle devrait accepter la correction de Dieu. Elle devrait se confier en l'Éternel. Elle devrait s'approcher de son Dieu. Mais Jérusalem délaisse complètement l'Éternel. Elle le met vraiment de côté. Et on voit que ce qui rend la ville corrompue, c'est sa désobéissance envers Dieu. Et bien sûr, quand on dit que Jérusalem est corrompue ici, il ne s'agit pas de la ville en elle-même, des bâtiments, etc., mais il s'agit des habitants qui composent cette ville, qui composent cette société. C'est eux qui ont rejeté l'Éternel, et donc la ville, dans son ensemble, est complètement souillée. Et Sophonie nous aide ici à comprendre que la raison de toute société qui est corrompue, c'est à la fois, premièrement, un problème de désobéissance envers Dieu, mais aussi, deuxièmement, un problème personnel qui concerne les individus qui composent la société. Dans le sens où, pour Jérusalem, si on voulait que la ville soit réformée, il aurait fallu qu'elle arrête de désobéir à Dieu, qu'elle retourne à l'Éternel. Et pour ça, il aurait fallu que chaque individu de la ville prenne conscience de son besoin d'être changé personnellement, d'être transformé personnellement. La ville serait réformée en revenant à Dieu et dans le retour à Dieu de chacun des individus de la ville. Beaucoup sont d'accord aujourd'hui pour dire que nos sociétés ne tournent pas rond, qu'il faut réformer les choses, qu'il faut changer des choses. Mais peu de personnes sont d'accord pour dire, comme Sophonie nous y invite, que le problème, c'est la désobéissance personnelle envers Dieu. Et donc si on veut changer nos sociétés, on doit viser la transformation et la conversion des individus, le retour à Dieu. Sans ça, il ne peut pas y avoir de vraie réforme de la société. Il y a un commentateur qui écrit « Chercher à réformer une société dans l'espoir que cela produira des normes élevées et des bonnes personnes, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Ce sont des individus convertis et pieux qui formeront une bonne société. » Mais Sophonie nous montre plus de précision sur le problème de la ville. Ce n'est pas n'importe quel individu qui sont le problème à Jérusalem, mais c'est en particulier les responsables du peuple, et c'est ça qui est choquant. On voit ça dans les versets 3 et 4. Il est dit « Ses chefs sont au milieu d'elle des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont des indisciplinés, des trompeurs. Ses prêtres profanent les choses saintes. Ils violent la loi. » Les leaders de ce peuple, là aussi, sont l'inverse de ce qu'ils devraient être. Et dans un sens, c'est le comble de ce qui se passe. C'est vraiment ironique, presque, ce qui est en train de se passer à Jérusalem. Le rôle des princes et des juges, ça devrait être de prendre soin du peuple, de guider le troupeau au bon endroit, de faire régner la justice sur la ville. Mais là, les princes sont comme des lions rugissants. Et les juges sont comme des loups qui dévorent leur proie pendant la nuit et il ne reste plus rien à ronger au matin. Les prophètes, ils devraient être soumis à Dieu, ils devraient enseigner la vérité au peuple, leur parler de la part de Dieu. Mais là, ils sont indisciplinés, ils sont insoumis. Ils trompent le peuple et ils enseignent des mensonges. Les prêtres, ils devraient faire respecter la loi et ils devraient prendre au sérieux ce qui est saint. Mais là, ils souillent ce qui est saint et ils sont les premiers à transgresser la loi qu'ils sont censés enseigner. C'est ironique ce qui est en train de se passer. Les leaders sont l'inverse de ce qu'ils devraient être. Et puisque les leaders sont corrompus, ce n'est pas étonnant que la ville soit dans l'état où elle est. Au lieu d'amener le peuple à adorer l'Éternel, ils amènent le peuple à désobéir, à transgresser la loi de Dieu. Et Sophonie nous rappelle ici l'importance d'avoir des bons dirigeants. C'est un cadeau de Dieu et on voit ça quand on lit l'Ancien Testament, quand il y a de bons rois qui craignaient Dieu, qui voulaient diriger le peuple de la bonne manière, c'était une bénédiction pour le peuple. Mais en revanche, quand il y avait des rois, des mauvais rois qui faisaient ce qui est mal aux yeux de Dieu, qui régnaient sur le peuple de manière tyrannique, c'était terrible non seulement pour le peuple, mais aussi parce que ça amenait le peuple à pécher et à subir les conséquences du péché. Ça nous aide à comprendre ce que le Nouveau Testament dit par rapport aux responsables d'Église. L'importance d'avoir des bons responsables et qui sont appelés pas à dominer sur le troupeau, mais à conduire le troupeau dans la bonne direction. Les leaders doivent être ce qu'ils sont appelés à être pour le bien du peuple. Et peut-être qu'en voyant cette description de Jérusalem, cette corruption de Jérusalem, on peut se dire, mais comment ça se fait que Jérusalem, la cité de Dieu, est devenue si corrompue ? Il s'agit de la ville dans laquelle Dieu avait choisi de manifester sa présence de manière particulière, une ville qui avait la loi de Dieu, une ville à qui Dieu s'adressait par ses prophètes, une ville qui savait ce qui était bon et ce qui n'était pas bon parce qu'elle avait la loi. Elle avait toute la connaissance à propos de Dieu dont elle avait besoin, il ne lui manquait rien à ce niveau-là dans un sens. Et ici, ça nous permet d'apprendre une autre leçon très importante. Ce n'est pas l'intensité de connaissances religieuses qui transforme l'être humain, qui le rend bon, qui le rend imperméable à la corruption. En fait, ce qu'il faut, C'est une transformation de cœur, un changement de l'intérieur. Être né dans une famille chrétienne ou se réclamer de culture chrétienne par notre arrière-plan, par le bagage que l'on a, ça ne nous assure pas d'échapper au jugement de Dieu parce que ça ne change pas ce que nous sommes. Ça ne change pas la corruption de notre cœur. Peu importe le nombre de versets qu'on peut réciter par cœur, peu importe la quantité de connaissances bibliques qu'on a, peu importe le bagage religieux, on a besoin d'une transformation de cœur et on a besoin d'une foi personnelle. Les habitants de Jérusalem, ils auraient pu dire « Mais nous, on fait partie du peuple de Dieu. On est tranquille. On n'a rien à craindre. » Et pourtant, l'étiquette religieuse qu'ils portaient n'a pas empêché Dieu d'annoncer un jugement sévère et de voir leur manière d'agir qui était mauvaise, qui pointait vers leur cœur, qui était corrompu. On est très habitué en ce moment à Zoom, je pense qu'on peut bien comprendre les illustrations à propos de Zoom, mais sur Zoom, on peut facilement montrer aux gens que ce que l'on veut qu'ils voient. On se met dans la pièce la mieux rangée de la maison, et puis on montre que le décor qui est beau derrière, et ils ne voient pas tout le reste. Et là, je dois confesser que c'est souvent mon cas, quand on est sur Zoom, vous voyez des belles décorations derrière, mais le reste de ma chambre n'est pas forcément en très bon état. Mais on peut contrôler, on montre aux gens que ce que l'on veut qu'ils voient. Et même, plus loin que ça, on peut couper sa caméra, et personne ne peut voir ce que l'on fait. On peut couper son micro, et personne ne peut entendre ce que l'on dit. Et franchement, c'est un peu la même chose avec nos vies. On peut montrer aux gens que ce que l'on veut qu'ils voient. Ils me voient le dimanche, un chrétien fidèle qui a l'air de bien se porter, mais ils ne voient pas que c'est une étiquette que je porte. Ils ne voient pas que c'est une tradition pour libérer ma conscience, un acte religieux pour montrer à Dieu que je fais des efforts, une fine couche de christianisme qui cache la corruption de mon cœur. Mais Dieu, lui, il voit tout. Il voit même ce qu'il y a autour de nous quand on fait un zoom, il voit ce qui se passe quand notre caméra est coupée, il entend ce que l'on dit quand notre micro est éteint. Et il sait même ce qui se trouve dans nos pensées. Il n'est pas dupé par la fine couche de christianisme. Il voit plus profond, dans notre cœur. Et Jésus a prononcé des paroles très fortes vis-à-vis de ceux qui réclamaient le nom de chrétien, qui réclamaient être des disciples de Jésus, sans l'être réellement, qui portaient des masques dans un sens. Il a dit ceci dans Matthieu au chapitre 7. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ce sont des paroles très fortes vis-à-vis de gens qui ont fait des actes religieux, qui ont porté le nom de chrétien, qui réclamaient Jésus même comme Seigneur de leur vie. Mais leur manière de vivre prouvait le contraire. La corruption de leurs agissements montrait qu'ils n'avaient jamais connu Jésus et que Jésus ne les connaissait pas. Et si c'est votre cas, c'est le moment de faire tomber les masques, d'arrêter de jouer un rôle, de se comporter en tant que chrétien sans l'être réellement et de venir à Jésus pour confesser votre profonde dépendance envers lui, pour reconnaître vos manquements, pour trouver la véritable transformation de cœur, ce que nous avons tous besoin. Le pardon des péchés, une vie nouvelle, un cœur changé et une foi personnelle. Et pour nous qui sommes chrétiens, on sait que ce n'est pas parce qu'on le mérite qu'on est chrétien. Ce n'est pas parce qu'une étiquette religieuse nous vaudrait quoi que ce soit. Mais c'est parce que, conscient du jugement qu'on méritait, on a trouvé refuge en Jésus. Et même si on ne vit pas parfaitement, même si on a beaucoup à apprendre et énormément à progresser, on est conscient de nos erreurs, de nos manquements. Et on sait aussi qu'on est couvert par le sang précieux de l'agneau qui a donné sa vie pour nous. Voilà la première réaction, être choqué par le péché. Deuxième réaction dans ce texte de Sophonie, on devrait être réconforté par le caractère de Dieu. Est-ce que c'est ce qu'on voit dans le verset 5? En fait, le verset 5 met en avant un contraste frappant entre la corruption de la ville et la réalité du caractère de Dieu, ce que Dieu est. Parce que tout de suite, après cette description de la ville qui est souillée, des leaders qui sont corrompus, qui est l'inverse de ce qu'elle devrait être, on a le verset 5 qui nous dit ceci, « Au milieu d'elle, l'Éternel est juste. Il ne commet aucune injustice. Chaque matin, il rend ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est injuste ne connaît pas la honte. » Dieu est juste et il ne commet aucune injustice. Il ne fait aucune erreur dans ses jugements. Les juges humains, ils peuvent facilement se tromper. Parfois, il leur manque des informations qu'on découvre seulement plus tard et qui leur auraient permis de trouver le vrai coupable ou d'innocenter quelqu'un qui a été déclaré coupable alors qu'il n'était pas réellement coupable. Il leur manque parfois des informations. Mais Dieu, lui, connaît toutes choses. Il n'y a aucune information qui lui échappe. Quand il rend ses jugements, il n'y a aucune erreur. Quand il rend ses jugements, on ne peut rien lui reprocher parce que c'est juste. Et surtout, lui, il est le seul et la personne la plus à même de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Il sait ce qui doit être condamné et ce qui ne doit pas l'être. Dans Deutéronome, il nous est dit ceci à propos de Dieu, au chapitre 32, verset 4. « Dieu est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. » Dans le verset 3, Sophonie a montré que les juges ne sont pas en train de faire leur travail. Ils ne sont pas là chaque matin en train de rendre la justice. Mais le verset 5 nous montre que Dieu, lui, il est là. Chaque matin, il rend ses jugements sans jamais y manquer. Et donc, si on veut la justice, c'est à Dieu qu'il faut regarder. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Dans un monde corrompu, il y a un repère de justice, Dieu lui-même. Il y a quelqu'un, Dieu lui-même, qui ne laissera pas le mal passer sans punition. Et c'est un réconfort de découvrir le caractère de ce Dieu-là, au milieu de cette soif de justice que l'on a dans nos cœurs. Si certains peuvent échapper à la justice humaine, et ça nous frustre, c'est terrible, mais personne ne pourra échapper à la justice de Dieu. Aucun criminel ne pourra s'en sortir, se cacher ou s'évader. Alors soyons réconfortés par le caractère de Dieu qui prend la justice au sérieux. Et même bien plus que nous. Et il y a même dans ce verset 5 un élément qui renforce encore plus ce contraste entre le caractère de Dieu qui est juste et les êtres humains qui sont corrompus. La fin du verset 5 dit que l'homme injuste ne connaît pas la honte. L'homme injuste n'a même pas honte du mal qu'il commet. Il est tellement habitué au mal qu'il se rend même plus compte que ce qu'il fait est honteux, que c'est condamnable. Sa conscience est complètement éteinte. Il est baigné dans le mal, il s'y plaît, et il ne se rend même pas compte qu'il est en train de nager dans de la boue. Ça, c'est la réalité de ce que nous sommes, les êtres humains. C'était le cas à l'époque pour Jérusalem, mais c'est très proche de ce que l'on vit aujourd'hui, où l'on appelle le mal bien, et où on se vante de ce qui est moralement mauvais, où on fait des éloges du péché. On est en train de vivre ce que l'Épître aux Romains nous dit, au chapitre 1, verset 32. Bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent d'eux-mêmes. Non seulement on ne dénonce pas l'adultère, mais on l'encourage. On crée des sites de rencontres extra-conjugales, et non seulement ça, mais encore on affiche des pubs dans la ville, dans Bruxelles, pour encourager ceci. Et on ne se rend même pas compte à quel point c'est honteux et condamnable. L'homme injuste ne connaît pas la honte. Et c'est là qu'on voit l'importance de se comparer à Dieu et pas aux autres. On voit le contraste dans ce verset. Quand on se compare à Dieu, on n'est juste pas dans la même catégorie. Dieu est dans une autre catégorie. On se compare facilement aux autres pour se dire « mais moi, j'ai rien à me reprocher. Oui, je fais des choses qui ne sont pas tout le temps bonnes, mais elles ne sont pas dignes d'une condamnation. Allez voir les vrais criminels. Allez voir ceux qui commettent tous ces actes. C'est eux qui ont besoin d'être condamnés. » Et on essaie de se comparer aux autres pour échapper à ce que l'on est et à la réalité de nos cœurs. Mais déjà, il faut réaliser qu'on est bien plus enclin à excuser nos propres péchés que ceux des autres. Quand on arrive en retard, c'est normal, on avait une bonne raison. Mais quand les autres arrivent en retard, ah bah eux, j'espère qu'ils ont une justification, sinon ça ne va pas aller. Quand nous, on se met en colère, c'est normal, c'était une juste cause pour laquelle on s'est mis en colère. Mais quand les autres sont mis en colère, ah, ils doivent me demander pardon. On est plus enclin à excuser nos propres péchés que ceux des autres. Mais surtout, on doit réaliser qu'on doit se comparer à Dieu et pas aux autres, parce que Dieu seul est juste. Dieu seul est le critère de ce qui est bon, de ce qui est droit, de ce qui est correct, de ce que l'on doit faire. Martin Luther a dit ceci, « Prenez garde de ne pas mesurer votre sainteté en fonction du péché des autres. » Prenez garde de ne pas mesurer votre sainteté en fonction du péché des autres. Parce que quand on se compare au péché des autres, il y a toujours un moyen d'échapper. Mais quand on se compare à Dieu, on voit qu'on est tellement loin de la perfection. Et on réalise que notre soif de justice qui est là, elle devrait aussi concerner notre propre cœur. Steve avait donné une illustration une fois que j'avais trouvée marquante par rapport à ça. Il disait que souvent, voilà, on a ce désir de se comparer les uns aux autres et on fait une échelle de qui est pire et qui est le moins pire. Et donc, on met tout en haut les gens qui ont vraiment fait beaucoup de bien, les gens qui nous impressionnent, qui on a l'impression qu'on leur donnerait le bon Dieu sans confession, comme on dirait. Ils sont tout en haut de l'échelle. Et puis, tout en bas de l'échelle, on mettrait vraiment les criminels, les gens comme Hitler et les autres. Et puis, nous, on essaie de se positionner dans l'échelle. Bah, on n'est pas tout en bas, on n'est pas tout en haut, on est quand même un peu humble de temps en temps, mais on se mettrait plus ou moins un peu au-dessus de la moitié, peut-être. Et on fait une échelle en se comparant aux autres. Mais on doit réaliser que quand on est mis face au caractère de qui Dieu est, on réalise que cette échelle qu'on fait, c'est comme la différence entre 0 et 1%, alors que Dieu, lui, est à 100%. C'est ridicule de se comparer les uns aux autres, alors que quand on se compare à Dieu, on voit qu'il n'y a juste même pas moyen de comparer. Dieu est bien au-dessus de nous, et on est tellement loin de lui. Alors soyons réconfortés par le caractère de ce Dieu qui est juste. Et troisième réaction dans ce texte de Sophonie, soyons préparés pour le jugement. Être préparé pour le jugement, c'est une réaction à laquelle Sophonie veut nous préparer au travers de tous ces messages de jugement. Depuis le premier dimanche, on a prêché sur le chapitre 1. Parce que si Dieu est juste, alors il ne peut pas rester insensible face au mal que les êtres humains commettent. Il doit agir en conséquence de son caractère. Il doit manifester sa justice. Et c'est pour ça que ces versets et le livre de Sophonie en général parlent d'un jugement qui va venir, que Dieu annonce, où toutes les actions des hommes seront passées au crible et où le mal sera définitivement condamné. C'est pas la première fois que Dieu a agi pour Jérusalem, on le voit dans ces versets, mais on voit qu'ils n'avaient pas appris la leçon au verset 7. Il est dit, Dieu dit, « Je disais, si au moins tu voulais me craindre, accepter la correction, ton habitation ne serait pas détruite, toutes les interventions dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. » Mais ils se sont empressés de pervertir toutes leurs actions. Ils n'ont pas pris la correction de Dieu comme une occasion de se repentir, mais ils sont bêtement retournés à leur manière d'agir qui était mauvaise. Pourtant, la correction de Dieu, c'est une grâce pour nous, pour réagir, une occasion de se ressaisir et de retourner dans le droit chemin. Il faut apprendre de ses erreurs. On dit souvent « Ah, l'erreur est humaine, c'est pas très grave, l'important c'est d'apprendre de ses erreurs. » Mais dans le domaine de la désobéissance envers Dieu, l'erreur est grave. Mais c'est vrai que ce qui est encore plus grave que l'erreur, c'est ne pas apprendre de l'erreur qu'on a commise et la refaire à nouveau. Et donc, parce que ce peuple est devenu sourd à la correction de Dieu, Dieu dévoile ce jugement qui va venir et qui sera simplement la manifestation de son caractère. Dieu ne peut pas tolérer le moindre mal, c'est cohérent avec qui il est. Et donc, il annonce ici un jugement qui sera total et définitif, comme on le voit au verset 6. Il n'y a plus personne dans la rue. C'est comme à Bruxelles lors du confinement. C'était bizarre de voir le centre-ville de Bruxelles totalement vide. Là, c'est un peu comme ça, mais pas tout à fait, parce que ce n'est pas juste que chacun est confiné chez soi, mais c'est qu'il n'y a plus d'habitants dans la ville. Leurs villes sont désertes, plus aucun homme, plus aucun habitant, nous dit le verset 6. Et il s'agit aussi d'un jugement universel et final, comme on voit au verset 8. Dieu dit « Attendez-moi donc, déclare l'Éternel, le jour où je me lèverai pour le butin. » Car j'ai décidé de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour déverser sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. Oui, toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. C'est décidé par Dieu, et il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. C'est trop tard dans un sens. Ce jugement va venir. Et il ne s'agit pas juste ici, dans le verset 8, d'un jugement qui va concerner uniquement Jérusalem, mais qui va concerner toutes les nations. Il est question de rassembler les nations. Et ce verset, c'est un peu la conclusion de tout ce que Sophonie a dit jusque-là. Un jugement universel et final qui arrive pour chaque être humain sur cette terre, peu importe où il est. Et ça nous montre, comme un commentateur le disait, que Dieu n'est pas un bon Dieu faiblard. C'est peut-être la vision de Dieu que certains ont aujourd'hui, un bon Dieu faiblard. C'est ce que certains disaient au chapitre 1 de Sophonie, au verset 12. « Ah, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Dieu est passif face au mal. Il ne fait rien, on dirait qu'il dort. » Mais Sophonie nous montre que dire ça, c'est totalement à l'opposé de la réalité. Où est Dieu dans ce monde d'injustice? Il est là où il a toujours été, sur son trône, en train de régner. Et il va se lever pour mettre en place son jugement, pour juger toute injustice. « Attendez-moi donc, déclare l'Éternel, le jour où je me lèverai. » Dieu va se lever et agir pour juger, pour manifester sa justice, pour manifester son caractère, parce qu'il prend le mal très au sérieux, parce qu'il est entièrement juste. Chaque meurtre qui a été commis, Chaque violence envers un être humain, chaque abus de pouvoir, chaque vol, chaque tromperie, chaque manifestation de haine sera jugée par Dieu, pris très au sérieux par Dieu. Mais non seulement ça, mais aussi tout blasphème, toute insulte à son nom, tout déshonneur envers la sainteté de son nom, toute pensée impure, tout acte de colère, tout orgueil de l'être humain sera jugé et pris très au sérieux. Parce que Dieu déteste le mal bien plus que nous, et parce que Dieu agit conformément à son caractère. Et c'est pour ça qu'on doit être conscient de ce que l'on dit quand on réclame la justice, parce que ça nous concerne aussi. On veut la justice pour le mal qui est commis envers nous, on veut la justice de temps en temps pour le mal qui est commis envers les autres, mais pour le mal que l'on commet envers Dieu, là on ne veut pas la justice. C'est pas cohérent. Alors que lui, il est le souverain de cet univers. Et Sophonie nous montre ici qu'il n'y a pas dans le caractère de Dieu une justice à deux vitesses. On est tous concernés par ce jugement. Et si on veut que Dieu révèle sa justice, on ferait bien d'y être préparé, de nous tourner vers la croix pour trouver le pardon de nos fautes, pour trouver un casier judiciaire vide. Et pour être préparé à ce jugement qui arrive, il n'y a qu'une seule solution, c'est de trouver refuge en Jésus. Et si vous n'êtes pas prêt, si vous écoutez cette prédication et que vous n'êtes pas prêt à faire face à ce jugement qui arrive, si vous n'êtes pas prêt à faire face à Dieu, au Dieu que nous avons offensé, devant lequel personne ne pourra argumenter, bah mettez votre vie en règle avec Dieu, maintenant. Faites la paix avec Dieu, avant qu'il ne soit trop tard. On doit réaliser que quand on réclame la justice, on doit être prêt à savoir ce que l'on réclame et qu'on sera aussi concerné. Et en tant que chrétien, je ne dis pas ça pour nous faire peur, parce que on sait que si on a placé notre confiance en Jésus, on n'a pas à craindre ce jugement. Oui, c'est vrai qu'il y aurait mille et une raisons de nous juger, mais on sait que ce jugement est tombé justement sur Jésus à la croix. La justice a réellement été accomplie pour le mal que l'on a payé quand Jésus a pris sur lui la condamnation de nos fautes et qui nous a revêtus par la foi en lui de sa justice. Dieu a manifesté sa justice, sa colère contre le mal, la réalité de son caractère envers son précieux Fils, qui a donné sa vie librement pour nous sauver, pour nous permettre d'être préparés au jugement qui arrive. Ça, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et pour terminer, j'aimerais qu'on réalise cela et qu'on réalise que dire que Dieu juge ne devrait pas nous choquer, parce que c'est normal. C'est une bonne chose même. Ça montre que le mal est vraiment mauvais. Quand les actes racistes seront condamnés, on poussera un ouf de soulagement dans un sens, parce que la justice aura été rendue. Parce que la justice aura été respectée. Ça ne sera pas cruel de la part du juge de condamner. Ça ne sera pas choquant. Ça sera normal. Et on doit réaliser que c'est la même chose en ce qui concerne la justice de Dieu. C'est normal que Dieu juge. Ne soyons pas choqués de voir la justice de Dieu se manifester, y compris envers nous. Mais si on veut être choqué par quelque chose, soyons choqués par la grâce de Dieu. Parce que la justice de Dieu est méritée, mais la grâce de Dieu ne l'est pas. La grâce est une faveur, un don gratuit que Dieu nous donne. Et on a vu cette grâce de Dieu briller alors que le Fils de Dieu était crucifié. On a vu cette grâce de Dieu dans toute sa splendeur quand le Dieu de l'univers, qui avait toutes les raisons de nous condamner, a choisi de nous sauver et de nous prendre pour nous accepter comme ses enfants en raison de ce que Christ a fait à la croix. On a vu cette grâce de Dieu à la croix alors que le juste est mort pour des injustes. Si on veut être choqué par quelque chose, soyons choqués par la grâce. Et si on veut crier justice, il faut regarder à la croix. Parce que cette croix, elle pointe vers l'horreur de notre péché et vers la grandeur de l'amour de Dieu. Où l'amour et la justice de Dieu sont réunis par la grâce merveilleuse de Dieu. Et cette grâce de Dieu, Sophonie nous en parlera plus dimanche prochain dans la fin de sa prophétie. On va voir ça ensemble, comment cette grâce se manifeste et ce qu'elle implique. Et on verra combien c'est bouleversant. Mais pour terminer ici, ne prenons pas cette grâce pour acquis. Ne prenons pas la grâce pour quelque chose qui nous est dû, qui est mérité. La justice est méritée, mais la grâce ne l'est pas. Alors réjouissons-nous plutôt en tant que chrétiens d'être au bénéfice de cette grâce étonnante et de pouvoir chanter, comme on va le faire dans un instant, ce cantique, une strophe de ce cantique. « Quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché. » Prions ensemble, chers amis, pour terminer. Notre Dieu, on te remercie pour ce passage de Sophonie qui nous montre la réalité de ton caractère. Merci parce que dans ce monde où nos cœurs crient justice pour le mal que nous voyons, il y a un repère de justice. Merci parce que tu es sur ton trône. Merci parce que tu es bien plus choqué par le mal que nous ne le sommes. Et merci parce qu'il y a un jour où tu vas juger ce monde, chaque acte mauvais qui a été commis envers ta sainteté. Et merci notre Dieu parce que tu ne nous as pas laissés sans issue face à cette réalité de notre condamnation. Mais merci pour la croix, où nous voyons ta justice et ton amour réunis se manifester de manière tellement grande. Merci pour cette assurance qu'on a auprès de toi. Merci pour ta grâce qui est imméritée. Et on prie cela dans le nom de Jésus. Amen.